Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le choix de la défaite est un essai historique de Annie Lacroix-Riz consacré aux origines politiques, économiques et sociales de la défaite française de 1940. Fondé sur une vaste enquête dans des archives françaises et étrangères, ce travail examine la décennie 1930 non comme une simple préparation militaire insuffisante, mais comme une période de choix opérée au sein des classes dirigeantes. L'auteur soutient que de puissants intérêts financiers, industriels, administratifs et militaires ont privilégié une entente avec le Reich et une transformation autoritaire de la France, tout en considérant le mouvement ouvrier et le communisme comme la menace principale. Son interprétation est fortement structurée par une lecture de classe des institutions et des relations internationales. L'ouvrage suit notamment les débats sur le pacte franco-soviétique, la guerre civile espagnole, les accords de Munich et la désagrégation politique précédant mai 1940. Il propose ainsi une explication polémique, documentée et systématique de ce que Marc Bloch avait nommé une étrange défaite. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la défaite de 1940 est analysée comme un choix politique des élites. La thèse centrale du livre récuse une explication exclusivement militaire de la campagne de 1940. Annie Lacroix-Riz ne nie ni les faiblesses stratégiques françaises ni la puissance opérationnelle allemande, mais elle les replace dans un ensemble de décisions antérieures. Selon son enquête, une partie décisive des élites françaises aurait accepté ou favorisé des orientations qui réduisaient les capacités de résistance du pays. Le terme de choix ne désigne donc pas une décision unique, publique et formelle de livrer la France, mais une accumulation de priorités diplomatiques, économiques et institutionnelles. L'auteur met au premier plan la recherche d'une accommodation avec l'Allemagne nazie, jugée préférable à une alliance durable avec l'Union soviétique ou à une mobilisation sociale interne. Cette perspective conduit à lire les hésitations face au réarmement, les politiques d'apaisement et les abandons diplomatiques comme des éléments reliés. L'intérêt de cette construction réside dans son refus de séparer artificiellement politique intérieure et politique extérieure. Sa portée est aussi controversée, car elle attribue une cohérence très forte à des milieux divers. Le lecteur doit donc distinguer les documents mobilisés, souvent nombreux, de la synthèse causale proposée par l'auteur. Deuxièmement, le patronat et la finance forment le centre de gravité de l'enquête. Le livre accorde une place déterminante au haut patronat, aux grandes structures financières et aux organisations représentant les intérêts industriels. La Banque de France et le Comité des Forges figurent dans cette analyse comme des pôles majeurs d'influence. Pour Annie Lacroix-Riz, les responsables politiques, militaires et médiatiques ne disposent pas d'une autonomie complète face aux grands intérêts économiques. Cette hypothèse organise sa lecture des réseaux de pouvoir et de la circulation des décisions. Elle insiste sur les raisons sociales de cette orientation crainte des grèves. Hostilité aux conquêtes ouvrières, rejet du communisme et volonté de restaurer une discipline renforcée dans les entreprises et dans l'État. Le modèle fasciste attire alors moins par une adhésion uniforme à toute idéologie nazie que par son efficacité supposée contre les syndicats et les mouvements populaires. Cette distinction est importante car elle relie les choix internationaux à la conflictualité sociale française. Le livre décrit ainsi une convergence entre recherche de stabilité des affaires, aspiration à un pouvoir exécutif fort et acceptation croissante de solutions autoritaires. Cette grille de lecture donne une unité au récit. Mais elle demande au lecteur de mesurer la diversité réelle des positions patronales et administratives durant une période instable. Troisièmement, la priorité donnée à l'ennemi intérieur éclaire le tournant autoritaire. Une grande partie de la démonstration porte sur la notion d'ennemi intérieur. Dans le contexte de crise économique, de montée du Front populaire et de polarisation européenne, Annie Lacroix-Riz estime que les classes dirigeantes françaises ont davantage redouté la contestation sociale que l'expansion allemande. Cette hiérarchie des menaces permettrait d'expliquer leur tolérance envers des projets de réforme autoritaire de l'État. L'auteur rapproche ses aspirations de certains modèles fascistes européens, notamment pour leur destruction des organisations ouvrières et leur capacité à imposer une discipline sociale. Le livre aborde également les réseaux clandestins et les tentatives de déstabilisation de la République, dont la cagoule et le CSR constituent des références connues. Ces éléments ne sont pas présentés comme des phénomènes isolés, mais comme les expressions extrêmes d'un climat où la démocratie parlementaire est contestée par plusieurs secteurs influents. Cette approche souligne que les institutions ne sont pas seulement affaiblies par des contraintes extérieures, elles peuvent aussi être minées par des acteurs installés au cœur du pays. Elle aide à comprendre le lien établi par l'auteur entre anticommunisme, hostilité au Front populaire et rapprochement progressif avec l'Allemagne. Elle reste une interprétation globale qui suscite débat sur le degré de coordination entre ces acteurs. Quatrièmement, les alliances de revers, Espagne, Tchécoslovaquie et Munich structurent la démonstration diplomatique. La politique extérieure occupe une fonction essentielle dans le livre, car elle permet de suivre concrètement ce que l'auteur considère comme le sabotage des alternatives à entente avec le Reich. Annie Lacroix-Riz examine la fragilité du pacte franco-soviétique, conçu comme une alliance de revers susceptible de dissuader Allemagne. Elle analyse aussi la guerre civile espagnole comme un test politique majeur, la non-intervention française aurait, selon elle, affaibli le camp républicain et favorisé le rapport de forces fascistes en Europe. Les crises liées à Anschluss puis à la Tchécoslovaquie conduisent au point culminant de cette trajectoire, les accords de Munich de septembre 1938. Dans cette lecture, Munich ne représente pas seulement une erreur de jugement face à Hitler, mais une étape dans une politique de conciliation déjà préparée par des intérêts sociaux et économiques. Le livre suit enfin la période post-munichoise et la marche vers la guerre afin de montrer que le recul diplomatique ne fut pas corrigé à temps. Cette séquence est utile pour saisir la logique du titre « La défaite se préparait bien avant les combats de mai 1940 ». Elle invite aussi à examiner comment les préférences idéologiques internes peuvent peser sur les choix d'alliance. En dernier lieu, une enquête archivistique ample soutient une interprétation engagée et discutée. La spécificité de Le choix de la défaite tient autant à son ambition documentaire qu'à sa thèse. Annie Lacroix-Riz mobilise des fonds issus notamment des administrations de la guerre, des affaires étrangères, de l'économie, du travail, de l'intérieur et des services de renseignement ainsi que des archives étrangères. Elle souligne que les règles de communicabilité et les dérogations conditionnent progressivement accès à certains dossiers, ce qui explique les mises à jour de ces éditions. Cette attention aux archives donne au livre une forte densité factuelle et permet de confronter correspondances, rapports administratifs et documents diplomatiques. La méthode ne se limite cependant pas à une compilation, elle est guidée par une théorie de longue durée, des rapports de classe et des stratégies de domination. Ce cadre rend le raisonnement très lisible, puisqu'il relie les épisodes dispersés à une même logique. Il constitue aussi le principal objet de discussion critique. Des lecteurs peuvent juger que l'auteur tend à privilégier les continuités, les intérêts communs et les collusions, au risque de réduire les désaccords ou les incertitudes des décideurs. L'ouvrage gagne donc à être lu comme une enquête argumentative de grande ampleur, puis comparé à des travaux proposant des explications plus institutionnelles, militaires ou diplomatiques de la défaite. En conclusion, cet ouvrage s'adresse en priorité aux lecteurs déjà intéressés par l'histoire de France, durant entre deux guerres, la défaite de 1940, les relations entre économie et pouvoir, ainsi que les débats sur les responsabilités des élites. Son ampleur et sa densité documentaire le rendent moins adapté à une première découverte rapide de la période, mais très utile pour qui cherche une thèse suivie, appuyée sur des archives et attentive aux liens entre politique intérieure et diplomatie. Le bénéfice intellectuel principal consiste à déplacer le regard au lieu de traiter la catastrophe de 1940 comme le seul produit de carences militaires ou de circonstances. Tragique, le livre interroge les intérêts sociaux qui ont orienté les décisions françaises durant une décennie. Il fournit aussi un cadre pour réfléchir aux effets politiques de l'anticommunisme, de la peur des mobilisations populaires et de la fascination pour autorité. Par rapport à beaucoup de synthèses sur la chute de la France, il se distingue par la place centrale donnée au grand patronat, aux réseaux financiers et à la lutte de classe. Cette originalité fait sa force et explique les controverses suscitées par ses conclusions. Une lecture exigeante et critique est donc recommandée, elle permet de tirer profit de la richesse des sources, tout en confrontant la cohérence interprétative de l'auteur au débat. Historiographique sur apaisement, Munich, réarmement et collaboration. Si vous souhaitez soutenir Annie Lacroix-Riz, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.